Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC, c'est votre journal, présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La fin du rêve européen pour le Paris Saint-Germain, encore battu 1-0 par Dortmund hier soir et éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. La folie olympique, ça y est, c'est aujourd'hui que la flamme arrive à Marseille. 150 000 personnes attendues aujourd'hui sur le Vieux-Port. Et puis Jean-Pierre Farandou, prié de descendre du train, le patron de la SNCF sera débarqué après les Jeux.
Et bien pour défendre le patron de la SNCF, son meilleur ennemi, Fabien Villedieu du syndicat Sudrail, est le témoin du jour juste après le journal. C'est donc une énième déception pour les supporters du Paris Saint-Germain.
Oui, le rêve européen s'arrête donc cette année en demi-finale avec une défaite 1-0 contre Dortmund à l'aller comme au retour hier soir, avec de la frustration et même de l'incompréhension, nous dit Pierre Thévenet qui était à la sortie du Parc des Princes hier soir.
Au coup de sifflet final, les supporters parisiens sont agacés, frustrés par ce résultat.
Dans son terrain, quand même, ils n'ont même pas respecté. On se casse avant, on fait les déplacements, on est là pour eux, même s'ils perdent, vas-y, on les encourage. Mais là, il n'y a rien, je comprends rien.
J'imaginais même pas une défaite, en fait, pour être honnête, et là, je suis déboussolé.
Il faut dire que les fans du club ont tout donné. Avant la rencontre, ils ont chanté pendant de longues heures et pendant le match, jusqu'au bout, ils ont poussé derrière leur équipe. Pour Dimitri, les joueurs n'étaient pas à la hauteur.
Je les ai même pas sentis à 20%. On aurait dû faire plus, on aurait dû être dans le combat, on aurait dû être dans l'agressivité, dans la percussion. On n'a rien de tout ça. On a fait que jouer à la baballe, comme si c'était pas un match en jeu, que c'est pas normal.
Même son de cloche s'est saoulé, furieux contre son équipe et contre un joueur en particulier.
Très compliqué pour Kylian Mbappé, parce que franchement là, il nous a un peu déçus, il a pas trop joué. C'est pas normal ce qu'ils nous ont fait. On est en colère.
Pour sa dernière au Parc des Princes en Ligue des Champions avec le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'aura donc pas réussi à accrocher une nouvelle finale.
Et lui-même déçu de son match, Kylian Mbappé. Alors Jean-Louis Tour, vous étiez au Parc des Princes hier soir sur RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Jean-Louis, Kylian Mbappé n'a pas brillé, on vient de le dire, comme les autres tauliers d'ailleurs du PSG.
Oui, Mbappé, c'est une partie de la frustration, une grosse partie de la frustration générale des supporters parisiens ce matin. La fameuse phrase, c'était la bonne saison, s'expliquait par le tirage au sort, mais aussi parce que c'était la dernière saison du Français avec Paris. Et même si hier soir il a esquivé des questions sur son avenir, il s'agissait bien de son dernier match de Ligue des Champions avec le PSG. Et clairement, il l'a raté à l'aller comme au retour. Il n'a pas eu le poids d'un joueur star, d'un joueur autour de qui l'équipe a été bâtie cet été. Donc après cette saison, Mbappé ne gagnera pas la Ligue des Champions avec le PSG. Et ce sera bientôt l'heure des explications pour comprendre comment le Français, malgré les buts marqués, a pu être si loin de son meilleur niveau, celui d'un champion du monde et même d'un finaliste de Coupe du Monde il y a seulement 18 mois. Sa relation pas toujours fluide avec Luis Enrique, son entraîneur, est sûrement une partie du problème.
La Ligue des Champions va continuer avec l'autre demi-finale entre le Real et le Bayern, une semaine après le match nul de partout entre ces deux équipes. Elle continue sans donc le Paris Saint-Germain et tous les espoirs européens en foot désormais reposent sur Marseille dans l'autre compétition européenne, la Ligue Europa. Marseille qui sera demain chez l'Atalanta à Bergame. Marseille, qui sera peut-être bien aussi la ville la plus surveillée du monde aujourd'hui. 5900 policiers et gendarmes mobilisés pour l'arrivée, vous le savez, de la flamme olympique. Ça fait des mois qu'on en parle, et bien c'est aujourd'hui qu'elle arrive en France, à bord du Belém, parti de Grèce il y a 10 jours. Ce sera la première image forte des Jeux en terre française d'ailleurs aujourd'hui. Le fameux trois mâts qui va passer toute la journée en rade de Marseille, où il sera escorté par un millier de bateaux, des voiliers, des plaisanciers, et même Claude à bord de sa petite barque de pêche qui se confie à Hélène Terzian pour RMC.
On embarque sur la barquette. Alors vous voyez, ça bouge, c'est normal parce qu'elle est légère.
À côté de la petite barque de pêche traditionnelle de Claude, le Belém n'a qu'à bien se tenir. 5,60 m de long, tout en bois, ce sera l'une des plus petites embarcations à escorter le majestueux voilier.
On l'a foufoutant. On a vérifié tout. On a vidé l'eau des cales, nettoyé au maximum. On a vérifié que le moteur marchait.
Comme les 1000 autres barques, bateaux, petits voiliers sélectionnés, elle retrouvera d'abord le Belém au large de Marseille pour une entrée triomphante dans le vieux port.
Aucune répétition. On espère que tous les Marseillais vont savoir obéir aux règles.
Dernière touche à fixer au mât avant le grand départ.
Le petit drapeau. Alors il y a écrit « Parade de la flamme olympique ». Si vous n'avez pas ce drapeau, vous pouvez pas sortir.
Ça c'est le règlement, mais chacun sa touche personnelle.
J'y mettrai aussi le drapeau de la ville de Marseille. Les Marseillais sont tellement contents de recevoir la flamme. On est très fiers. La ville de Marseille a été créée par les Phocéens, des Grecs. Cette flamme arrive de Grèce. Donc pour nous, c'est un juste retour, quoi.
Une fierté telle que 150 000 personnes attendront la flamme au Vieux-Port.
Et c'est le nageur Florent Manaudou hein, qui, comme prévu, portera la flamme dans le port de Marseille sur les coups de 19h sur une piste d'athlétisme qui a été installée pour l'occasion avant un concert gratuit donc à Marseille, concert notamment de Soprano, le rappeur qui sera l'invité du Super Moscato Show. En direct de Marseille, comme les grandes gueules d'ailleurs ce matin. Emmanuel Macron aussi sera à Marseille. Et en attendant, le président revient sur la polémique Gérard Depardieu dans un entretien au magazine Elle. Il assure qu'il n'a jamais défendu un agresseur face à des victimes. Lui qui avait pourtant créé la polémique fin décembre en dénonçant une chasse à l'homme à l'égard de l'acteur mis en examen pour viol et qui sera jugé en octobre pour agression sexuelle. Le bras de fer à distance, c'était hier soir dans la campagne des Européennes, meeting du RN à Saint-Avold en Moselle. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont fustigé la déconnexion de la candidate de la majorité Valérie Ayer qui, elle, était en meeting à Paris, salle de la Mutualité, pour tenter encore une fois de relancer sa campagne, Cyprien Pézeril.
Valérie Ayer veut faire de son meeting un nouveau point de départ d'une campagne qui patine. Alors la tête de liste Renaissance, loin derrière Jordan Bardella, appelle une énième fois au sursaut.
Face à ceux qui veulent l'Europe de la marche arrière, ne cédons rien. Ne leur cédons rien. Alors à vos côtés, je vais lancer l'appel à mobilisation.
Des applaudissements nourris, certes, mais qui contrastent avec le reste de la soirée et des formules qui ne dissipent pas tous les doutes.
Je pense qu'il y a encore du travail à faire.
Jean-Louis s'inquiète même de voir sa candidate
passer en troisième position. Les sondages ne sont pas en notre faveur.
En cause, la liste socialiste de Raphaël Glucksmann qui talonne celle de son camp.
Les Français ont quand même une tendance à l'oubli assez rapide. Madame Hidalgo a fait 1,7% il y a 2 ans. Et aujourd'hui, le Messie est revenu, tout va bien et on reprend les socialistes, je comprends pas.
Pour François, les macronistes laissent même leur tête de liste novice en race campagne.
Elle aurait mérité un soutien un peu plus marqué. Ils auraient dû se mêler, ils partent peut-être un peu tard.
Et ce militant d'appeler Emmanuel Macron à descendre dans l'arène au plus vite, comme il s'y est engagé.
Et troisième des sondages, le candidat socialiste Raphaël Glucksmann estime qu'il ne faut pas déloger les étudiants pro-palestiniens, comme hier soir encore à Sciences Po Paris, une trentaine d'interpellations. Et alors ce matin, dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens continuent. Les États-Unis ont décidé cette nuit de suspendre une livraison de bombes aux Israéliens inquiets, disent les Américains, sur la situation dans la ville de Rafah. Et puis donc le patron de la SNCF, qui est débarqué en pleine polémique sur les fins de carrière des cheminots, le gouvernement qui était en colère et qui est l'unique actionnaire du groupe, décide de ne pas le reconduire. Jean-Pierre Farandou partira donc après les JO, Victor Joannin.
Oui, beaucoup de cheminots en sont persuadés. Le patron de la SNCF paye pour avoir signé cet accord impopulaire brocardé la semaine dernière par Bruno Le Maire. Mais le ministre de l'économie jure que cette éviction est uniquement due à la limite d'âge, puisque Jean-Pierre Farandou aurait dû de toute façon quitter l'entreprise dans un an, à 68 ans. Le PDG, qui est d'ailleurs traité de la même manière que son homologue d'aéroport de Paris, Augustin Dromanet, lui aussi débarqué par l'État après les JO. Jean-Pierre Farandou est entré à la SNCF il y a 5 ans et il serait parvenu à remettre les comptes de l'entreprise dans le vert avec des bénéfices records. Plusieurs noms circulent pour lui succéder, dont ceux de l'ancien Premier ministre Jean Castex ou de l'actuel responsable du pôle gare à la SNCF, Marlène Dolvecq.
Et enfin, le gendarme du nucléaire donne son feu vert pour mettre en service le nouveau réacteur nucléaire d'EDF, l'EPR de Flamanville en Normandie, après 12 ans de retard et avec une turbine, on l'a appris cette nuit, prénommée Christine. Ah. C'est une tradition en France, toutes les turbines ont un prénom. À Civaux, il y a Michel. À Gravelines, c'est Elisabeth. Et donc à Flamanville, maintenant, c'est Christine.
Bah, j'ignorais cette tradition. Bah, longue vie à Christine, je note. J'apprends qu'à Gravelines, c'est Elisabeth. À Civaux, c'est Michel. Bah, voilà, toutes les infos dans le journal de Quentin Vinet qu'on retrouve tout à l'heure à 8h en direct sur RMC. Et tout de suite, bah, vous avez la priorité, évidemment, comme toujours sur RMC. Il y a Michel qui nous appelle au 3216 depuis Salon de Provence. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Charles.
Salut Michel. Comment ça va
mon ami Charles?
Ah, on est amis. Oui, ça va Michel.
J'appelle c'était juste pour vous charrier un peu ce matin.
Allez, bah c'est la fête ce matin. Supporter marseillais, j'imagine. Bah,
bien sûr qu'on est supporter marseillais.
Donc on entend votre sourire après la défaite, la désillusion du PSG hier soir. Défaite 1-0, nouvelle défaite 1-0 en demi-finale retour face à Dortmund.
Bah, ils n'ont pas joué en fait.
Ah, ils ont joué, ils ont tenté. Il y a eu une trentaine de tirs.
Est-ce que vous avez vu Mbappé sur le terrain? Moi, je l'ai pas vu.
Non, c'est vrai. Très petit match d'Mbappé pour ce qui était sûrement son dernier match en Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes hier soir. Bon, Michel, on va essayer de se réjouir, de se consoler. Bon. Il y a la flamme olympique qui arrive chez vous aujourd'hui. Là, vous êtes à Salon de Provence, pas loin de Marseille.
Alors... Non, non. Alors ça, c'est un truc, c'est une mascarade. Franchement, c'est une mascarade. Vous avez vu qui c'est qui porte la flamme olympique?
Il y a Florent Manoudou notamment qui va descendre du Belém avec la flamme.
Ensuite?
Ah bah ensuite, je ne vais pas vous faire toute la liste, ils sont nombreux. Hein, mais
des,
je pense
inconnus,
à...
des inconnus, je ne savais même pas que ça existait.
Mais non, Michel, il y a Eric Dimeco, j'ai pas toute la liste en tête, mais il y a plein de figures marseillaises qui vont porter la flamme, Soprano.
Non, mais...
c'est... Ouais. Allez-y, Michel.
Non, mais pour Marseille, ça va aller. Mais vous allez voir qu'il va y avoir... Alors, c'est quoi cette histoire avec... moi, je n'ai rien contre eux, hein, mais les drag queens... Des inconnus.
Mais tant mieux, Michel, non, que tout le monde puisse porter la flamme. Qu'elle se... c'est les JO de tous les Français, non? Ça, c'est très bien. La flamme va parcourir tout le pays. Michel, ça commence à Marseille. Alors, 8 à Marseille, c'est très bien. Le reste, un peu moins. Bon, j'entends un peu de chauvinisme marseillais avec vous, Michel, ce matin. Mais en tout cas, merci d'être venu partager avec nous de bonne heure sur RMC. Mais oui, c'est historique ce qui va se passer aujourd'hui. Les JO qui débarquent en France avec la flamme olympique tout à l'heure, qui descendra du Belém sur le Vieux-Port. Ce sera à vivre, évidemment, sur RMC. Journée spéciale. Merci. Merci Michel d'être passé par le 32-16, il est 7h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le PDG de la SNCF, remercié, Jean-Pierre Farandou, va devoir quitter son poste après les JO. Décision prise par le gouvernement, hein, quelques jours après la colère de Bruno Le Maire sur RMC qui lui reprochait d'avoir signé un accord trop généreux avec les syndicats. Et bien dans un instant, c'est pas tous les jours que ça arrive, Fabien Villedieu du syndicat Sudrail va défendre son futur ex-patron. Il est tout de suite en direct avec nous sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
7h12, bon réveil à tous sur RMC.
Le témoin RMC.
Bonjour Fabien Villedieu.
Bonjour.
Bonjour, délégué Sudrail SNCF, hein, la casquette la plus célèbre du syndicalisme français. Et alors attention, ce matin, vous êtes dans une position plus qu'inhabituelle avec nous. Vous venez soutenir votre patron, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui sera remplacé après les Jeux Olympiques. Décision du gouvernement qui l'accuse d'avoir signé avec vous et les autres syndicats un accord trop généreux pour éviter les grèves cet été. Alors Fabien Villedieu, est-ce que vous regrettez quelque part cet accord? Est-ce qu'indirectement vous avez eu la tête de votre patron en obtenant un peu trop dans cette négo?
Non seulement on ne regrette pas cet accord, mais on fait passer un message très simple. Si il touche à l'accord, je vous le dis tout simplement et tout calmement, c'est le feu à la SNCF. Parce que moi, vous savez, ça fait 23 ans que je suis à la SNCF, ça fait 23 ans que je vois des reculs sociaux. Pour une fois en 23 ans, on a eu la possibilité d'avoir un accord de progrès social. Et si, ce qui a coûté la tête d'ailleurs à M. Farandou, si le message qui est passé, c'est que dès qu'on fait des accords de progrès social, c'est dehors, et du coup, l'étape d'après, c'est je remets en cause l'accord qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales. Je vous dis, très simplement et très calmement, si le gouvernement s'attaque à cet accord, c'est le feu à la SNCF.
Alors pour l'instant, Fabien Villedieu, le gouvernement n'a pas annoncé s'attaquer à cet accord, mais cet accord met le gouvernement en colère. On l'a entendu, on va le réécouter. La semaine dernière, Bruno Le Maire était sur RMC face à Apolline.
Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites et les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Alors je reconnais bien volontiers que c'est au président directeur général de la SNCF de gérer les relations avec les organisations syndicales. Mais le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. Donc j'ai convoqué M. Farandou et je tiens à ce qu'il m'explique comment est-ce qu'il finance cet accord qu'il a conclu avec les syndicats.
Voilà, convoqué puis débarqué, hein, Jean-Pierre Farandou. Alors, cet accord est très généreux, trop généreux aux yeux du gouvernement sur les fins de carrière des conducteurs et des contrôleurs. Hein, pour les cheminots, l'accord leur permet 18 mois avant la fin de leur carrière de travailler 9 mois payés à 100%, puis 9 mois non travaillés, rémunérés à 75%. Un accord impopulaire aux yeux des Français, Fabien Villedieu.
Alors, je veux quand même réagir à ce que dit le ministre. Non, mais il dit qu'il n'était pas au courant. Mais c'est complètement faux. Non seulement le gouvernement était au courant, mais en plus, c'est à la demande du gouvernement. Écoutez l'interview, pas de Sudrail, de M. Farandou. C'est à la demande du gouvernement de négocier des accords de fin de carrière dans les grandes entreprises comme la SNCF. Ils font ça, ils mettent ça en place, le gouvernement rend compte que c'est pas populaire, donc de coup dehors. Et par ailleurs, sur les équipes financières de la SNCF, je rassure le ministre de l'économie, les équipes financières de la SNCF sont très bonnes et c'est pas cet accord qui va les remettre en cause, c'est un accord qui va coûter 35 millions d'euros, qui sera financé à 100% par le travail des cheminots, et dans une masse salariale des cheminots de 10 milliards. Voilà, donc une masse salariale de 10 milliards, un accord de 35 millions d'euros avec une SNCF qui fait 1,3 milliard de bénéfices, parce qu'aujourd'hui, la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. Donc à un moment donné, tout ça n'a aucune cohérence. Si la seule cohérence que ça, et ça je le reconnais, c'est qu'il s'agit de faire du cheminot bashing, et ils ont fait pour des raisons politiques la volonté, ils ont viré le patron de la SNCF. Mais par ailleurs, sur les histoires d'équité, parce qu'on me dit oui, mais regardez la SNCF, vous avez la possibilité de faire ça, et nous dans le privé, on peut pas faire ça. Est-ce que vous savez comment ça se passe pour les métiers pénibles dans les boîtes privées, et notamment dans les petites boîtes? C'est très simple, c'est rupture conventionnelle. C'est dehors, c'est la porte.
Oui, et donc, même si le gouvernement entend aussi lutter contre cette méthode, alors que là, on va l'instaurer quelque part à la SNCF. En attendant, Fabien Villedieu, vous donnez raison à Bruno Le Maire en venant défendre Jean-Pierre Farandou et en expliquant que cet accord est fantastique pour vous. Bah, vous venez donner raison à Bruno Le Maire qui dit, bah, c'est trop généreux si c'est un accord qui ravit Sudrail, et c'est que Jean-Pierre Farandou a trop cédé au syndicat.
Bah, l'accord est un bon accord, oui. Si c'est effectivement ce que dit Monsieur Le Maire, c'est un bon accord. Le problème, c'est qu'on l'a signé. On n'est pas sadomaso, on ne signe pas des accords qui sont défavorables. Moi, la seule chose que je dis, c'est que cet accord, il existe dans d'autres entreprises. Chez les chauffeurs routiers, notamment, ils ont un congé de fin d'activité qui permet de partir 5 ans plus tôt. Donc, c'est pas que la SNCF qui a ce type d'accord. Et par ailleurs, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que dans les petites boîtes, pour se débarrasser des salariés qui ont des métiers pénible à partir de 60 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ruptures conventionnelles. Ça, et quand vous faites des
ruptures conventionnelles,
écoutez-moi, vous retrouvez au chômage, et donc finalement, c'est la collectivité qui paye. C'est-à-dire que nous, on a un accord qui est financé par la SNCF. Au lieu de nous dire merci, parce que c'est la SNCF qui finance, on nous expliquerait qu'il faudrait faire comme dans le privé. Donc dans le privé, t'es mis dehors, c'est les assédiques qui payent, donc c'est la collectivité qui paye.
Et vous promettez, Fabien Villedieu, vous nous l'avez dit, le feu à la SNCF, donc des grèves, si cet accord était remis en cause. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en revanche, est-ce que vous pourriez faire grève pour soutenir votre patron, pour soutenir Jean-Pierre Farandou?
Bah, écoutez, on n'ira pas jusque-là. En tout cas, moi, je trouve injuste. Voilà, je vous le dis comme je pense. L'ADN de Sudrail, c'est pas de défendre les patrons. Et j'ai beaucoup combattu Farandou sur des histoires d'augmentation de salaire, de suppression d'emplois, de casse du fret. On l'a beaucoup combattu. Par contre, quand il y a des choses injustes qui tombent, et là, en l'occurrence, c'est une chose injuste, il s'agit de le dire. Mais je vous rassure, autant on fera grève pour défendre l'accord, on n'ira pas là à faire grève pour défendre M. Farandou.
Vous l'avez clairement dit, la menace est brandie, le feu à la SNCF si le gouvernement touche au contenu de cet accord. Et vous jugez injuste ce débarquement de votre patron Jean-Pierre Farandou. Merci Fabien Villedieu, délégué Sudrail SNCF, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC pour réagir donc à l'annonce de cette fin de mandat pour Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF. Ça ne sera qu'après les JO, parce que cet accord... permet en théorie d'éviter les grèves pendant les JO, sauf si le gouvernement menace d'y toucher, parce que vous promettez le feu à la SNCF dans ce cas-là. Merci encore une fois, Fabien Villedieu, d'avoir été en direct sur RMC. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Emmanuel Macron veut que le droit de visite devienne un devoir de visite pour les pères dans les familles monoparentales. Annonce surprise hier soir auprès du magazine Elle. Une victoire pour Sonia Jabri, cette maman solo qui se bat depuis des mois pour sanctionner les pères défaillants. Elle est mon invitée à 7h40, tout comme la députée Renaissance Fanta Beretta qui, elle, porte une mission parlementaire sur les familles monoparentales. On saura toutes ces annonces d'Emmanuel Macron à 7h40 sur RMC. Mais tout de suite, c'est le 7h20 d'Apolline Matin. Solène Leroux, Manu Le Chypre et Arnaud Demange, c'est tout de suite sur RMC.
Apolline Matin. Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu tous les matins sur RMC. On retrouve Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Charles.
Alors on sait déjà qu'Aya Nakamura sera l'une des stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en juillet prochain. Mais Nicolas, vous nous révélez ce matin que Tom Cruise sera la star de la cérémonie de clôture des JO.
Oui, il y a quelques jours, une vidéo tournée de nuit avec Tom Cruise, cheveux au vent sur sa moto en plein Paris, avait fait le tour des réseaux sociaux. Les badauds présents en avaient déduit le tournage d'une séquence pour la saga Mission Impossible qui sortira l'année prochaine. Mais d'après nos informations, ce n'est pas le cas. Sur sa moto, dans les petites ruelles de la capitale, Tom Cruise tournait une séquence pour la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024. Il sera la tête d'affiche de la soirée du 11 août qui se déroulera au Stade de France. Lors de cet événement, le futur futur pays hôte des Jeux a toujours le droit à un moment. Par exemple, à Tokyo en 2021, la France avait diffusé une vidéo avec des BMX sur les toits de Paris. Au guidon de sa moto, Tom Cruise va donc servir de bascule vers les Jeux de Los Angeles 2028.
Et alors, Nicolas, ce n'est pas la première fois que Tom Cruise est si proche des Jeux Olympiques, hein.
Et non, car pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que Tom Cruise participe à un événement olympique. En 2004, l'acteur avait porté la flamme, devinez où ? À Los Angeles, juste avant le début des Jeux d'Athènes. Lors du tournage fin avril à Paris, un drapeau blanc était accroché à l'arrière de sa moto. Le logo des Jeux de Los Angeles 2028 devrait être incrusté sur cette partie. Les moyens mis en place pour ce tournage étaient moins importants que ceux déployés pour le tournage d'un film comme Mission Impossible. Avec Tom Cruise en star de la cérémonie de clôture des JO, cette dernière retrouve une vraie saveur. Le show proposé pour ces derniers instants est toujours moins impressionnant qu'à la cérémonie d'ouverture. Avec cette star internationale, le comité d'organisation sauve donc une belle publicité pour finir ces Jeux de Paris 2024.
Dans moins d'une minute sur RMC,
le 7h20 d'Apolline Matin.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Charles Magnin.
Et toute l'équipe du 7h20 d'Apolline Matin qui nous rejoint. RMC qui s'engage avec vous avec Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour tout le monde.
Le chiffre d'affaires avec Manu Le Chip. Salut Manu.
Bonjour à tous.
Et on va se marrer dans un instant avec le meilleur d'Arnaud Demanche. Mais tout de suite, Solène, on parle avec vous pension de réversion.
Ouais, c'est la pension que touchent les veuves et les veufs. Ils reçoivent une partie de la retraite de leur conjoint décédé sous certaines conditions. Il faut avoir au moins 55 ans, toucher environ 24 000 euros par an maximum si vous vivez seul. Et ce n'est pas automatique, il faut la demander. Depuis septembre, 30 personnes nous ont contactés. Beaucoup galèrent à percevoir cette pension, comme Liliane, 81 ans. C'est son fils Philippe qui raconte.
C'est un vrai préjudice financier pour ma maman qui a du mal à finir les fins de mois, quoi. Elle m'a dit, ben non, je mange qu'un repas par jour, je me prive, donc je l'aide. Personne ne s'en occupe, quoi. Si moi je ne suis pas là, si je n'ai pas d'enfants, comment font les gens, quoi, pour survivre? Les aînés, on les considère pas du tout, hein. On voit bien comment maintenant les petites gens sont traités, hein. Je suis même pas triste, je suis écœuré par le système.
Et ça concerne combien de personnes, cette pension de réversion ?
Eh bien, près de 4 millions de Français environ, et en très grande majorité, ce sont des femmes. Elles représentent quasiment 90% des bénéficiaires, parce qu'elles vivent plus longtemps déjà, mais surtout, c'est un problème d'inégalité. Un homme veuf gagne généralement plus d'argent et ne rentre donc pas dans les critères. Impossible d'avoir des chiffres sur l'ampleur des dysfonctionnements, mais il y a régulièrement des réclamations à ce sujet, selon la Défenseure des droits.
Et pourquoi il y a autant de réclamations ?
Eh bien, principalement à cause de la dématérialisation des services publics. On en parle souvent sur notre antenne. Les personnes qui peuvent toucher cette pension sont par définition plus âgées et donc éloignées du numérique. Ça complique donc les démarches qui ne sont déjà pas très simples à la base. Et face à ces difficultés, plus d'une personne âgée sur sept abandonne. Voilà, tout simplement. L'assurance vieillesse propose donc la mise en place d'un système pour simplifier la demande des pensions.
Et que répond le gouvernement ?
Eh bien, il a entendu l'appel. C'est une information RMC ce matin. La simplification de la demande de réversion est prévue pour 2026. Précision du ministère du Travail à Margot Boult. Ça sera sous la forme d'un formulaire pré-rempli. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule pour la mère de Philippe que vous venez d'entendre, tout devrait rentrer dans l'ordre. Il y a une erreur en fait du côté de l'administration. Ce n'est pas encore réglé, mais c'est bien parti et on y veillera, bien sûr.
Voilà, une bonne nouvelle. Et donc, cette info 2026 pour la simplification des demandes de pension de réversion. On rappelle l'adresse, hein, pour vous contacter, Solène et toute l'équipe autour d'Amélie Rosic. Une adresse mail, RMC avec vous, @RMC. Fr. L'écho avec Manu Le Chypre. Et Manu, une bonne nouvelle ce matin, les salaires augmentent désormais plus vite que l'inflation.
Exactement, c'est la DARES qui nous le dit. Le salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés a progressé de 1,3% au cours des trois premiers mois de 2024. Ça fait 3,3% d'augmentation sur un an, soit nettement plus que l'inflation, qui elle est en train de ralentir, puisque en avril, tout compris, on était à 2,1% et qu'on a vu les chiffres sur uniquement la grande distribution de par Circana aujourd'hui, on est à moins 0,3% sur le mois d'avril, ce qui fait un gain de pouvoir d'achat de plus de 1%, et c'est en réalité davantage, puisqu'il faut rappeler que ce salaire mensuel de base qui sert de référence, il ne prend pas en compte les éventuelles primes touchées par les salariés, ni les heures supplémentaires.
Et tous les types de professions sont concernés par ces augmentations.
Exactement. L'envolée des prix qui avait débuté en 2021 avait entamé le pouvoir d'achat des salariés durant 8 trimestres consécutifs. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde est dans le vert. C'est la catégorie des ouvriers qui enregistre le gain le plus important de pouvoir d'achat devant les employés, les professions intermédiaires et les cadres.
Et une évolution des salaires qu'on retrouve aussi dans les chiffres de la conso.
Effectivement, puisqu'au cours des trois premiers mois de l'année, les Français ont recommencé à dépenser globalement. Mais le plus frappant, c'est que ce sont les dépenses d'alimentation qui ont rebondi le plus fort avec le desserrement de la contrainte budgétaire après plusieurs mois de privation, alors que pour le coup, les Français sont restés très raisonnables en matière de dépenses automobiles, informatiques ou d'habillement.
Et tout de suite, on se fait plaisir sur RMC, le meilleur d'Arnaud Demange. Tiens, souvenez-vous, ce jour-là, Arnaud célébrait les 70 ans des aventures de Martine en BD.
Ah ouais, Martine a 70 ans. C'est la seule femme de 70 ans. Ah bah oui, mais c'est la seule femme de 70 ans dont le visage est comme ça, éternellement lisse et figé dans la jeunesse. À part Isabelle Adjani, bien sûr. Allez, je vous lis un petit extrait. C'est les vacances. Et Martine a décidé de visiter la capitale. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Martine arrive à Gare du Nord.
Bonjour monsieur, où est la Tour Eiffel ? Quel drôle d'énergumène j'ai rencontré là !
Se dit Martine en enlevant le vomi de vin rouge et de Macédoine que l'homme a projeté sur ses nouveaux souliers.
Allez, prenons notre valise et allons voir la Tour Eiffel. Mais où est ma valise ? Ma valise ! Ma valise a disparu ! Monsieur, vous avez vu ma valise ?
Je ne sais pas où elle est, mais est-ce que tu veux un peu de cette cigarette qui fait voir des belles couleurs ? Regarde, j'ai de la poudre magique venue de la colline enchantée de Stalingrad.
Non merci !
Répond Martine en montant dans un taxi pour le Trocadéro. Mm. En descendant du taxi où elle a écouté les grandes gueules pendant trois quarts d'heure, Martine a faim.
Bonjour madame, une crêpe s'il vous plaît.
La marchande ouvre une plaque d'égout, sort un seau de pâte à crêpes, chasse Ratatouille qui nageait dans la pâte et prépare à Martine une délicieuse dose de salmonelle. Ça fera 42 euros.
Merci madame,
dit Martine en mangeant sa crêpe. Huit jours après, Martine sort enfin de l'hôpital. Elle retourne chez elle, ramenant des souvenirs plein sa tête et des punaises plein son lit. Des souvenirs qu'elle pourra raconter à son psy pour les 20 prochaines années. À bientôt Martine.
7h31.
RMC, Apolline Matin.
Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, votre journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Être parent est un devoir. Emmanuel Macron veut responsabiliser les pères de famille monoparentales. Le chef de l'État avance l'idée d'un devoir de visite jusqu'à l'âge adulte des enfants. Journée de fête à Marseille, le BLM va entrer dans le Vieux-Port à son bord la flamme olympique. Début d'un périple de 69 jours jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Et puis Dortmund éteint la flamme. Paris quitte la Ligue des Champions aux portes de la finale, battu 1-0 hier soir au Parc des Princes. Une dernière sortie européenne ratée pour Kylian Mbappé avec le maillot du PSG.
Faut-il imposer un devoir de visite au père dans les familles monoparentales ? Emmanuel Macron ouvre le débat.
Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses pouvoirs et tous ses devoirs. Les mots d'Emmanuel Macron dans un entretien vidéo au magazine Elle. Le chef de l'État veut imposer des visites régulières en cas de séparation des parents, et ce jusqu'à l'âge adulte des enfants, au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, dit le président de la République. C'est d'ailleurs une édit qui séduit les associations qui militent Marion Gauthier depuis plusieurs années pour une telle mesure.
Le droit de visite, c'est souvent un enfant sac préparé pour le week-end, attendant un père qui ne viendra jamais, raconte Sarah Margueraz. Elle est cofondatrice de l'association collective des mères isolées.
À aucun moment, la justice ne se soucie des conséquences sur la sécurité affective de l'enfant. J'ai un enfant dont je sais qu'à n'importe quel moment, son père peut me dire qu'il ne viendra pas la chercher le week-end, qu'il souhaite modifier les dates des vacances sans que je n'ai aucun moyen de me retourner contre lui.
Transformer ce droit en devoir de visite régulière, créer un délit et des sanctions s'il n'est pas respecté.
Que cet homme qui n'assume pas son devoir de présence perde aussi un peu en pouvoir de décision et qu'une mère ne soit ou pas obligée de lui demander son autorisation chaque fois qu'elle lève le petit doigt, qu'elle inscrit l'enfant à un voyage scolaire ou qu'elle l'emmène chez le médecin pour lui faire faire un scanner.
Il faut aller dans le sens de l'égalité car les mères gèrent plus de 80% des familles monoparentales, rappelle Émilie Bilan-Curigny, sociologue et professeure à Sciences Po.
Il y a très clairement dans notre droit de la famille une asymétrie très forte entre devoir pour les mères d'un côté, droit pour les pères de l'autre.
Mais elle souligne un impératif, suspendre le devoir de visite à la moindre suspicion de violence.
Emmanuel Macron qui reste inflexible sur la GPA à laquelle il se montre opposé, à l'inverse de la PMA dont il veut améliorer l'accès. Autre sujet évoqué dans cet entretien, l'affaire Depardieu. Il assure n'avoir jamais défendu un agresseur face à des victimes et déclare ne pas avoir de complaisance vis-à-vis de l'acteur qui sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle sur deux femmes. Emmanuel Macron à Paris ce matin pour les commémorations du 8 mai 1945 avant de rejoindre Marseille. Dans la journée, Marseille prêt à s'enflammer pour les Jeux de Paris 2024. Après 12 jours de mer, la flamme olympique arrive en France à bord du Bel Aim. On retrouve sur place en direct notre envoyé spécial Julien Richard. Julien, vous êtes ce matin sur le Vieux-Port à quelques heures d'une journée de grande festivité.
Un vieux port déjà baigné de soleil, mais très calme. Pour le moment, la circulation automobile est coupée. L'impressionnant dispositif de sécurité se met en place. Le Bel Aim, lui, avec sa flamme olympique à son bord, va parader d'abord toute la journée dans la rade de Marseille, escorté par 1024 bateaux. Les South Winners l'attendent à 19h à l'entrée du vieux port. Le principal groupe de supporters de l'Olympique de Marseille a confectionné un immense tifo avec des bâches gigantesques, des fumigènes, de la fumée dans le ciel également, parce que la patrouille de France survolera le 3 mâts avec les traditionnelles couleurs, hein, bleu, blanc, rouge. Et les Alpha Jets dessineront également les anneaux olympiques au-dessus du Vieux-Port. Il sera alors temps pour Florent Manaudou de descendre du Bel Aim avec la flamme olympique. Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, est resté très évasif sur la suite avec certainement une surprise à attendre pour allumer le chaudron sur le Vieux-Port à 19h40. La fête se terminera par un concert des rappeurs marseillais Alonso et Soprano.
Julien Richard, en direct de Marseille ce matin. Ne manquez pas la journée spéciale sur RMC. Les Grandes Gueules et le Super Moscato Show seront en direct de Marseille aux côtés de nombreux invités, Soprano ou encore Didier Drogba. Il est 7h35, vous êtes sur RMC. C'était un témoignage très attendu cette nuit à New York, celui de Stormy Daniels. L'ancienne star du X était entendue dans le cadre du procès de Donald Trump, l'ex-président américain jugé, entre autres, pour avoir dissimulé un paiement de $130,000 à l'actrice en vue d'acheter son silence lors de sa campagne en 2016. Et c'est Romain Hougain, un récit particulièrement cru livré cette nuit par l'ancienne actrice de sa rencontre avec l'ancien mania de l'immobilier.
Oui, en fait, c'est en 2006, en marge d'une compétition de golf, que Stormy Daniels va faire la rencontre du milliardaire, une rencontre très brève, après laquelle un membre du staff de Donald Trump lui explique que l'ancien président souhaite dîner avec elle. Elle accepte, se rend dans la suite de celui qui est alors futur candidat. Il l'attend en pyjama, en soie ou en satin, dit-elle. La conversation est badine jusqu'à ce qu'elle fasse un tour à la salle de bain. Et en sortant, elle le trouve nu sur son lit. « J'ai senti le sang quitter mes mains », raconte-t-elle, avant d'expliquer ne pas s'être senti menacée, mais plutôt dans un rapport de force déséquilibré. « J'ai fini par avoir une relation sexuelle avec lui », regrette-t-elle. J'ai eu honte de ne pas avoir arrêté ça. L'ancienne actrice X recroise ensuite quelques fois Donald Trump avant de perdre contact avec lui. Et c'est lorsqu'il se lance dans la campagne en 2016 que son agente lui conseille de monnayer son témoignage. L'argent ne m'intéressait pas, assure-t-elle néanmoins. Donald Trump, lui, a pris la parole après l'audience. Le dossier s'effondre, a-t-il lancé devant les journalistes.
Mais la précision de Romain Houx ce matin. Fin de l'aventure européenne pour le PSG, battu 1-0 hier soir en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. 30 tirs, 4 poteaux, le PSG n'a pas réussi à inverser la tendance. Les Parisiens cèdent à la 50e minute de jeu un but de la tête de Mats Hummels sur corner. Une dernière sortie européenne ratée pour Kylian Mbappé avec le maillot du PSG, incapable de peser sur la défense adverse, Valentin Jamin.
Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé reste seul, mâchoire serrée, tête basse, marqué par la défaite et son match insipide. Comme à l'aller, pas de but, des maladresses, 18 pertes de balles, le joueur en est conscient.
J'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais, c'était pas suffisant. Quand on parle d'efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi.
Il sort par la petite porte malgré ses doublés. Aux deux tours précédents, le numéro 7 a déçu les fans dans l'attitude. En retrait comme rarement, il a du mal à digérer.
On est déçu pour les supporters, pour les gens, pour nos proches. Mais c'est comme ça, c'est un processus qui est long et on a montré qu'on était capable d'aller loin.
Meilleur buteur du club dans la compétition, avec ses 42 réalisations, Mbappé paye aussi ses changements de poste décidés par son coach Luis Enrique qui ne l'accable pas.
Quelle tristesse ce serait pour un entraîneur de ne pas être du côté de ses joueurs dans un moment délicat. C'est moi qui ai pris les responsabilités, c'est moi le responsable. Maintenant, on veut bien finir cette saison.
Il reste la Coupe de France pour clôturer son aventure au PSG où il aura connu une finale de Ligue des Champions en 2020, mais surtout beaucoup de regrets.
Et Dortmund connaîtra son adversaire en finale. Ce soir, le Real reçoit le Bayern Munich de partout à l'aller. Match à vivre sur RMC à la radio dès 21h, RMC Sport 1 à la télévision.
Et puis les courses, c'est à Lyon-Paris aujourd'hui.
Et c'est à 15h15 sur RMC Découverte. Le 9 Valerio est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 2 Canechia, le 9 et le 2.
Et on vous retrouve Thibaut Texer tout à l'heure pour un prochain journal.
À tout à l'heure.
Ce sera à 8h30 sur RMC. Il est 7h38.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, obliger les pères à s'occuper de leurs enfants. Emmanuel Macron veut que le droit de visite devienne un devoir. Annonce surprise hier soir auprès du magazine Elle. Une victoire pour Sonia Jabri, maman solo qui se bat depuis des mois pour sanctionner les pères défaillants. Elle est mon invitée dans un instant avec la députée Renaissance Fanta Beretta qui est à la tête d'une mission parlementaire sur les familles monoparentales. Quelles sanctions pour les pères absents ? La réponse dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
7h42, vous êtes bien sur RMC, on parle tout de suite des pères trop absents.
L'invité du jour.
Deux invités pour réagir à l'annonce d'Emmanuel Macron dans une interview au magazine Elle. Le chef de l'État veut instaurer un devoir de visite pour les pères dans les familles monoparentales. Nous sommes en ligne avec Sonia Jabri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maman solo de deux enfants, vous vivez à Nancy et vous vous battez hein, depuis des mois. Vous étiez avec nous d'ailleurs il y a quelques mois sur RMC. Vous vous battez pour sanctionner les parents et notamment les pères qui ne viennent pas s'occuper de leurs enfants quand ils en ont la charge. Et puis nous sommes également en ligne avec la députée Renaissance de Paris, Fanta Beretta. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une mission parlementaire justement sur les familles monoparentales, mission parlementaire qui doit bientôt rendre ses propositions. Et c'est justement en réponse à une question sur les familles monoparentales qu'Emmanuel Macron a fait cette annonce hier soir.
Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent.
Alors Sonia Jabri, vous qui assumez seule à 100% la garde de vos enfants, comment vous réagissez ce matin ?
Écoutez, je suis heureuse et enchantée que le président de la République ait repris mes mots et puisse appuyer sur la proposition de loi que nous avons portée avec Thibault Bazin qui vise justement à rétablir l'équité et à instaurer un délit de non-exécution du droit de visite et d'hébergement.
Parce que oui, vous portez ce combat depuis des mois, vous avez écrit à tous les députés. Ce que vous dénoncez, c'est le fait qu'il y a par exemple des sanctions pour un père qui ne verserait pas la pension alimentaire. Il y a eu d'ailleurs une loi, c'est désormais la CAF qui vient en soutien aux mères qui ne perçoivent pas la pension versée par le père. En revanche, sur les questions de visite, comment dire, une mère a le devoir dans la loi de présenter les enfants au père lorsqu'il en a la garde. En revanche, si le père ne prend pas sa charge, pour l'instant, il n'y a rien qui l'oblige dans la loi.
Alors effectivement, alors au-delà du père et la mère, c'est un combat qui est non juré, hein, c'est le parent qui a la garde et le parent qui n'a pas la garde. Il y avait un vide juridique sur les sanctions qui étaient effectivement imposées. L'objectif de la proposition de loi, c'est de rétablir la même sanction en cas de non-présentation et en cas de délit de non-exécution du droit de visite et d'hébergement. Et au-delà de ça, nous proposons une assise de la parentalité avec tous les acteurs pour accompagner les parents à devenir parents. Être parent, ce n'est pas inné, ça s'apprend, et nous devons accompagner les familles pour accompagner les enfants de la naissance tout au long de la vie, y compris lors de séparation.
Alors, vous voulez qu'on change la loi, Sonia Jabri, bah, c'est le rôle de Fanta Berreté. Vous êtes députée Renaissance, Fanta Berreté. Je viens vers vous parce que vous dirigez en ce moment une mission parlementaire sur les familles monoparentales. Alors, comment ça pourrait se traduire dans la loi, ce devoir de visite ?
Bon, écoutez, donc effectivement, sur la mission, nous, on a cinq piliers, dont celui de la coparentalité qui est important. C'est un sujet qui va au-delà des aspects financiers parce que quand on parle des familles monoparentales, on parle bien souvent des aspects financiers. Ce qui nous paraissait important, c'est de parler des trajectoires de vie, de celui de souvent de la maman, hein, puisque 82% ce sont des mamans, et de celui des enfants, remettre l'enfant au centre de nos préoccupations. Donc, nous sommes en plein travail. Ce que nous entendons, comme le dit Madame Jabri, c'est que les femmes disent j'ai besoin de répit, j'ai besoin de relais, j'ai besoin d'un appui, j'ai une charge mentale qui est très élevée. Donc, il faut travailler sur cette égalité homme-femme et sur ce lien de parentalité si, et je dis bien si, parce que ça, c'est ce que nous disent les auditions, s'il n'y a pas eu de violence ou de pour bien l'enfant, pour c'est important de le rappeler, pour l'enfant, pour la mère, violence physique, violence psychologique au moment de la séparation. Parce que moi, je vois des messages sur les réseaux depuis hier avec une inquiétude là-dessus. Et le président s'est d'ailleurs exprimé dans l'extrait, en tout cas dans l'article, en disant que s'il n'y a pas eu tout ça. Donc maintenant, notre travail à nous, on a un comité consultatif qui est constitué, on travaille avec eux, la traduction dans la loi, le président en a parlé, il a parlé d'une amende civile, donc est-ce que ça sera dans ce sens-là ou est-ce que ça sera une autre recommandation ? Ce que je tenais à dire ce matin, c'est que oui, ce que nous souhaitons, c'est travailler quand c'est possible à préserver la coparentalité. Maintenant, la traduction, bah, du coup, nous aurons les recommandations dans quelques semaines.
Mais Fanta Berreté, je vais poser la question à Sonia Jabri. On va être très concret. Sonia Jabri, si votre ex-compagnon, le père de vos enfants, se met à prendre les enfants, j'imagine, un week-end sur deux, uniquement parce qu'il a peur de l'amende, est-ce que c'est un bon moteur ? Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant ?
Eh bien, écoutez, si c'est un premier levier, pourquoi pas ? Encore une fois, si on exclut les violences, on ne peut pas passer d'un couple avec où tout va bien et au moment de la séparation, les parents deviennent violents. Ce n'est pas vrai. Il faut aussi inciter les familles et les parents à garder le lien. Aujourd'hui, depuis des décennies, on a autorisé le père ou le parent qui n'a pas la garde à être défaillant. Il faut le remettre au cœur des préoccupations. Et pour ce faire, s'il faut passer par un risque d'amende au même titre que le devoir de non-présentation, c'est-à-dire que sur l'article 227-5, c'est 1 an de prison, 15 000 euros d'amende. La proposition de loi que nous avons déposée avec Thibault Bazin reprend exactement les mêmes termes, 1 an de prison, 15 000 euros d'amende. S'il faut passer par cette menace, entre guillemets, oui, parce qu'il faut obliger les familles, les parents, à garder leur rôle et à se responsabiliser. La loi est faite pour ça.
Il y a des témoignages sur l'application RMC qui vont peut-être vous faire réagir, notamment Mohamed qui dit « Attention, il faut aussi rééquilibrer les rapports de force, quid des mères qui entravent la garde ». D'autres pères de famille aussi disent « Attention, il faut aussi parler des mamans qui parfois font tout pour que le père ne puisse pas voir leurs enfants ».
Oui, exactement. Et c'est vraiment pour ça que je parle d'un combat qui est non genré. Il faut stopper les parents qui se servent d'armes contre, qui se servent des enfants comme armes contre l'autre parent. Il ne faut jamais casser le lien parent-enfant, que ce soit avec le père ou avec la mère. L'enfant a besoin des deux parents pour se construire, pour être un adulte établi. Pour ce faire, il a besoin des deux parents. Et en aucun cas, un parent a le droit de couper le lien avec son enfant. C'est impensable.
Et ça pourrait donc passer par la loi. Fanta Berreté, je reviens vers vous. En tant que député Renaissance, vous nous dites... On pourrait prévoir, par exemple, une amende pour les pères qui ne prennent pas en charge leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient être inscrites dans cette loi ?
Bah écoutez, pour l'instant, moi, je ne vais pas pouvoir divulguer ce sur quoi donc nous avons eu des retours, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a la question de la loi, comment nous allons le porter, mais effectivement, c'est un sujet parce que nous ne pouvons plus accepter effectivement en 2024. D'ailleurs, après tout ce que nous avons entendu il y a un peu moins d'un an concernant c'est le parent gardien sur les problématiques liées, on va dire d'une manière générale, à l'éducation des enfants. On sait qu'il y a besoin d'un relais. Le parent d'eux est en mesure de payer la pension et que ce lien existe. Il doit être en mesure aussi de prendre ses responsabilités et de permettre à ce que l'enfant puisse évoluer donc dans avec deux adultes référents.
Et vous nous direz, évidemment, Fanta Berrété, dès que les propositions sont arrêtées, je compte sur vous pour venir nous les dévoiler sur RMC, mais on entend bien déjà cette première idée forte, une amende possible pour les pères qui ne prendraient pas la charge de leur enfant lorsqu'ils en ont la garde. Ce devoir de visite annoncé cette nuit par Emmanuel Macron auprès du magazine Elle, ça fait réagir, on le voit déjà sur Direct Studio. Vous n'hésitez pas aussi à venir témoigner au 32-16. Et puis je vais remercier aussi Sonia Jabri, maman solo en Meurthe-et-Moselle, qui porte ce combat aussi depuis des mois, d'avoir bien voulu témoigner ce matin et réagir en direct aux annonces d'Emmanuel Macron. Il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Tout de suite, c'est Expliquez-nous sur RMC avec Nicolas Poincaré.
Et je vous explique que le premier réacteur EPR devrait enfin entrer en service à la fin de l'année. On n'y croyait plus.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Mais d'abord, on fait un tour au ciné avec le bonus de Sébastien. C'est l'énorme carton au cinéma du film Un petit truc en plus.
Ah oui, c'est ce film dont on vous parlait la semaine dernière à sa sortie, qui a été réalisé par l'humoriste Artus, une comédie qui met en scène une dizaine d'acteurs amateurs atteints de handicap. Eh bien, ce film a touché le public et il dépasse déjà le million d'entrées en moins d'une semaine. Meilleur démarrage de l'année, c'est mieux que les blockbusters américains qui sont sortis cet hiver. Le bouche à oreille fait son effet. Et d'ailleurs, surtout en dehors de Paris, pour cette comédie Feel Good, qui raconte l'histoire de deux malfrats en cavale, joués par Clovis Cornillac et Artus, le père et le fils, qui vont s'incruster dans une colonie de vacances pour jeunes handicapés, l'un se faisant passer pour un pensionnaire, l'autre pour son éducateur. Alors voilà, rire avec le handicap, c'était un pari risqué. On pense aussi quand même au film Intouchable. On souhaite à ce film de connaître le même destin. En tout cas, le phénomène est lancé. Le film va sortir dans encore plus de salles cette semaine. C'est complètement fou, écrit Artus sur les réseaux sociaux.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
T'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé?
Bah, voudrais pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne.
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
Qui est Ludovic?
C'est ma petite bite! Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches?
Pardon?
Je sais que le passé, c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier.
Ah, remonte.
RMC, Apolline Matin.
Et à 7h54, c'est votre rendez-vous avec Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. L'autorité de sûreté nucléaire a donné hier son feu vert pour la mise en service du premier réacteur EPR. Enfin, il devait entrer en service cet été avec 12 ans de retard.
Oui, et on n'y croyait plus. Depuis des années, on ne parle de l'EPR de Flamanville en Normandie que pour annoncer des problèmes ou des retards. Et finalement, donc hier, pour la première fois, le gendarme du nucléaire a annoncé la bonne nouvelle. Elle autorise EDF à charger le combustible dans le réacteur. Des spécialistes disent charger les carottes dans l'autocuiseur. Cela alimentera ensuite une gigantesque turbine qui s'appelle Christine. Et dans quelques semaines, on pourra, si tout va bien, produire de l'électricité. D'abord tout doucement, sous forme d'essai. Puis à l'été, la centrale sera raccordée au réseau. Et enfin, à la fin de l'année, elle sera complètement opérationnelle.
Mais il faut rappeler que cette mise en service était prévue en 2012.
Oui, au départ, c'était un projet franco-allemand lancé en 1989, il y a 35 ans. Les Allemands se sont ensuite retirés du projet en 98 parce que le nucléaire n'avait plus la cote chez eux. Les Français de Framatome et d'EDF ont continué tout seuls. Le chantier a été lancé en 2004. Il devait durer 8 ans. Il en a duré 20. Les ennuis techniques se sont accumulés. Problème de soudure, problème sur la cuve, problème de l'acier du couvercle. Et les coûts ont explosé. L'EPR devait coûter 3,3 milliards d'euros. Il en a coûté 13, c'est-à-dire 4 fois plus. Et encore, la Cour des comptes a contesté ce chiffre et estimé que le coût réel était plutôt de 19 milliards, alors que le coût normal des centrales précédentes, c'était d'1,5 milliard. Flamanville, ce n'est donc pas une centrale, c'est un gouffre sans fond.
Comment on explique cette dérive?
La faute n'a pas de chance, l'accumulation de petits problèmes, pas si graves, mais très longs à résoudre, mais aussi et surtout le manque de personnel compétent. La France a construit toutes ses centrales nucléaires entre les années 60 et les années 90, et ensuite on a laissé la filière en sommeil. Les ingénieurs et les techniciens sont partis, il a donc fallu réembaucher et reformer des spécialistes, et ça a pris beaucoup de temps. En 2022, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, l'avait expliqué en dénonçant les incohérences de la politique gouvernementale, ce qui lui avait valu d'être viré, alors qu'il avait apparemment raison.
Alors, quelle est la différence entre cette centrale et les précédentes?
Eh bien, Vous allez être déçu, l'EPR n'est pas vraiment révolutionnaire. C'est une centrale à eau pressurisée, comme les précédentes. EPR, ce sont les initiales de réacteurs européens pressurisés, mais en anglais. Pour faire simple, la fusion nucléaire produit une chaleur qui transforme l'eau en vapeur. La vapeur fait tourner des turbines, et les turbines produisent de l'électricité. Ce n'est pas nouveau. L'EPR sera un peu plus puissante que les centrales précédentes, mais pas tant que ça. La différence entre Flamanville et toutes les centrales de deuxième génération, c'est essentiellement le niveau de sécurité. Pour les salariés comme pour les riverains, c'était le cahier des charges, rendre le nucléaire beaucoup plus sûr, y compris en cas de guerre ou d'attaque terroriste.
Et quel avenir pour cette technologie ?
Alors on espère que les futurs EPR seront moins chers et plus faciles à construire. La France en a commandé 6 pour des mises en service autour de 2050. À plus long terme, EDF envisage d'en construire jusqu'à 2 par an en France et à l'étranger. Le programme français ira peut-être jusqu'à 18 réacteurs EPR. Le nucléaire français se projette donc dans un avenir rayonnant, sans mauvais jeu de mots. Il ne reste plus qu'à inaugurer donc la première centrale depuis plus de 20 ans en France.
Et on va donc pouvoir charger les carottes dans l'autocuiseur, si je reprends les termes des spécialistes dans cet Expliquez-nous, signé Nicolas Poincaré, à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. Dans 2 minutes, il sera à 8h. Et bien, on va partir tout de suite sur RMC à Marseille, qui attend la flamme.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.